est au centre de recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
À Prague comme à Bratislava, les Tchèques et les Slovaques ont fêté la naissance de leurs deux nouveaux États. Si à Prague, l'enthousiasme était nettement moins important que lors de la révolution de velours de 89, à Bratislava, en revanche, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont célébré dignement l'événement.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. À trois reprises, au cours du XXe siècle, l'Europe occidentale a regardé avec angoisse dans la direction de la Tchécoslovaquie. Ce fut au moment de la crise de Munich, en septembre 1938, lorsque l'Angleterre et la France abandonnèrent cette toute jeune démocratie à la concupiscence d'Hitler. Ce fut en 1948, lorsque l'URSS, au début de la guerre froide, y imposa son pouvoir totalitaire. Ce fut enfin en 1968, lorsque Moscou écrasa sous ses chars le printemps de Prague, qui avait porté l'espérance d'une libéralisation du système communiste. Aujourd'hui, 28 ans après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique, 24 ans après la scission intervenue entre la République tchèque et la Slovaquie, 13 ans après l'entrée de l'une et de l'autre dans l'Union européenne, l'opinion publique en France ne porte plus vers elle qu'une attention quelque peu intermittente. Mais voici que ces derniers temps, les regards se sont portés spécifiquement vers Prague lorsqu'on a appris le grand succès électoral d'un milliardaire populiste, Andrej Babiš, aux élections législatives d'octobre dernier. Quant à la Slovaquie, on y relève la progression inquiétante d'un mouvement ouvertement néo-nazi. Donc, il est temps de se mettre en quête, comme toujours en période de crise, des mémoires entrelacées de ces deux nations sur la longue durée, marquées par la succession des forces de cohésion et de dissociation, par les défaites et par les courages, par les ouvertures et les crispations, bref, de s'enquérir des sources lointaines d'un nationalisme contemporain propre à freiner dans cette partie de l'Europe un effort collectif qui conduise vers plus d'unité du continent. J'ai convié, pour explorer ce passé qui est gros de notre actualité, Antoine Marès, professeur à la Sorbonne, Paris 1, et directeur du Centre d'Histoire de l'Europe centrale. Sa compétence va, j'en suis sûr, nous éclairer.
J'espère que la future République tchèque s'appellera République tchèque. Mais il ne faut pas être trop pointilleux pour ce qui est du nom d'une république. J'ai déjà eu cette expérience. La dénomination de la future république doit s'appuyer sur une habitude, une tradition, et ce nom n'est jamais précis. Pour être exact, la nouvelle république tchèque devrait s'appeler la république civique, démocratique, légitime, centre-européenne, constituée de ressortissants de la nation tchèque, vivant sur le territoire des pays de la couronne de Bohême, comportant bien sûr aussi Moraves et de nombreuses autres ethnies. Et même ainsi, ce n'est pas encore assez précis.
Antoine Marès, bonjour.
Bonjour.
C'était Václav Havel, le premier président de la Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque, après la scission en deux entre République tchèque et Slovaquie, qui évoque le choix du nouveau pays. C'était un extrait d'Interactualité, une archive d'Interactualité, le 28 octobre 1992. Il m'a paru que ce bref moment, ce bref propos, incarnait assez bien le poids de l'histoire et la complexité du sujet que nous allons avoir à démêler. Absolument, puisque c'est le moment où la Tchécoslovaquie, qui est née en octobre 1918, se scinde. D'ailleurs, de façon étrange, sans consultation de la population, parce que les institutions ne permettaient pas d'organiser un référendum et que la volonté des décideurs, les premiers ministres tchèques et slovaques, Václav Klaus et Vladimir Mečiar, n'allait pas dans le sens de cette consultation qui aurait peut-être donné un résultat négatif. Il y avait plus une crainte de la séparation qu'un enthousiasme de la part des uns et des autres, même si la situation était plus complexe que je ne le dis ici.
Là, pourquoi le ressort de cette coupure ?
Le ressort de cette coupure, c'est le résultat à la fois du poids de l'histoire et d'événements plus circonstanciels. Le poids de l'histoire parce que la réunion entre les Tchèques et les Slovaques qui remonte à 1918 avait des motivations fortes, mais était liée surtout au fait que les Slovaques étaient dans un état de très grande faiblesse, n'avaient pas d'élite propre, que les Tchèques avaient le sentiment qu'ils pouvaient protéger les Slovaques, et ils ont réduit en quelque sorte les différences qu'il y avait entre les deux à travers le tchécoslovaquisme. Et ces différences sont apparues au fur et à mesure que les Slovaques se sont formés dans le cocon tchécoslovaques, ont formé leurs élites, ont voulu s'affirmer. Il y a des différences aussi de sensibilité religieuse. Les Tchèques sont moins catholiques que ne le sont les Slovaques. Et puis, les Slovaques avaient aussi une frustration de ne jamais avoir eu d'État à eux. Ils avaient été intégrés dès le XIe siècle dans le royaume de Hongrie, dont ils sont sortis seulement en octobre 1918. Leur chef populiste, la Berlinka, avait dit « le mariage millénaire avec la Hongrie est terminé » au début du mois de mai 1918. Et le rapprochement avec les Tchèques avait été quelque chose de naturel.
Le paradoxe, c'est qu'il y a eu un seul moment au XXe siècle, avant la séparation de 92, où la Slovaquie existait en tant que telle, c'était aux côtés de Hitler.
Oui, et d'ailleurs ça ne s'est pas fait là non plus dans l'enthousiasme. Quand Hitler persuade Joseph Tiso de proclamer l'indépendance slovaque, bien évidemment pour lui permettre d'envahir la Bohème, les pays tchèques...
Monseigneur Tiso,
oui,
c'est un évêque.
Qui a eu un temps ce titre et puis qu'il a conservé, Tiso n'est pas, et ses proches ne sont pas enthousiastes. Hitler a brandi la menace de laisser les Slovaques face aux Hongrois pour obtenir véritablement l'accord de Tiso, cette proclamation qui permet l'invasion de la Tchécoslovaquie du 15 mars 1939.
Alors nous allons maintenant, Antoine Marès, revenir loin en arrière pour comprendre la complexité de ces forces centrifuges, ces forces centripètes et de l'importance aussi de cette région du monde, cette région de l'Europe, la Bohème. C'est Bismarck qui disait « qui tient la Bohème, tient l'Europe ».
Absolument, et je pense que ça n'a pas été totalement étranger à la prise de contrôle de ce pays par les soviétiques après la guerre, et que la possession de ce pays est représentée un enjeu géopolitique important.
Quoi qu'il en soit, il est peut-être utile au début de cette conversation que nous évoquions certains aspects géographiques. C'est une terre qui a toujours été à la fois une terre de passage et une terre de contact avec beaucoup de coupures. Il y a le passage nord-sud par le couloir morave, ouest-est par la voie danubienne à l'est et par la vallée de l'Aure à l'ouest. Et par conséquent, contact entre le monde romain et barbare, entre les Slaves et les Allemands, entre l'influence byzantine et romaine, entre le catholicisme et le protestantisme, entre le catholicisme et l'orthodoxie dans la partie orientale, entre l'Occident ensuite et l'univers soviétique. Cela fait beaucoup de tensions et beaucoup de divisions.
Absolument, ça donne des héritages conflictuels et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent la propension à qualifier ce territoire comme une sorte de sismographe de l'Europe. C'est là que commence la guerre de 30 ans, la première grande guerre européenne en 1618. C'est là que l'empire austro-hongrois se défait véritablement à l'issue de la première guerre mondiale. C'est là aussi, d'une certaine façon, que commence la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que se joue en 1948 la prise de possession totale de cette région et
le fait que la division de l'Europe est parachevée en février 1948 par le coup de Prague.
C'est vraiment le début de la guerre froide.
Le début de la guerre froide, et effectivement. Et c'est là aussi que, en 1968, se lève une sorte d'espoir de rénovation, peut-être, du socialisme de type soviétique.
Le tout marqué par un poids de l'histoire qui est particulièrement frappant. Je crois que pour notre émission, s'il y a un lieu où légitimer le regard entre le passé et le présent, c'est bien dans cette Europe qu'on ne doit peut-être pas appeler Europe de l'Est, mais plutôt Europe centrale. Il faut y prendre garde.
Oui, en ce qui concerne les Tchèques, indiscutablement l'Europe centrale. J'ai développé aussi le concept d'Europe médiane qui couvre un espace plus large qui se trouve entre l'Allemagne et la Russie et qui va de la Baltique à l'Adriatique et à la mer Noire, qui regroupe des ensembles de nature un peu différents, mais qui ont tous pour caractéristique la fragilité étatique et la complexité ethnique, linguistique, religieuse.
Avec le poids de l'histoire, vraiment, d'abord par le rôle des historiens, nous allons y venir, dans le renouveau national du 19e siècle, aussi parce que les revendications linguistiques se sont appuyées sur l'expérience du passé, et puis parce que il y a des traumatismes que nous allons avoir à considérer particulièrement forts. Je pense à Jean Hus, je pense évidemment à la bataille de la Montagne Blanche, et ensuite les accords de Munich. Vous voulez bien que nous voyions cela successivement ?
Évidemment.
Alors remontons d'abord, pourquoi pas à la fin du premier millénaire. Il y a déjà des moments d'unité qui sont devenus après coup mythiques.
Absolument. C'est lié à la christianisation de la région. Il y a une entité qui se crée au 9e siècle, qui est la Grande Moravie, au sein de laquelle, à un moment, Tchèques et Slovaques sont unis. Donc c'est une espèce de préhistoire de cette union.
Déjà.
Et qui est le début de la christianisation des Slaves. Car le début de la christianisation des Slaves a eu lieu en Europe centrale avec les apôtres Cyrille et Méthode, qui ensuite, dont les élèves, les disciples, ont connu des cheminements complexes à travers l'Europe, puisque les disciples de Méthode sont partis ensuite en Bulgarie. Et c'est à partir de la Bulgarie que l'Ukraine et la Russie ont été christianisés.
Je vois que notre roi Dagobert est venu au 7e siècle pour bousculer un royaume qui était déjà installé là.
Oui, alors...
C'est vrai ou c'est légendaire ?
On peut difficilement parler de royaume. On est dans un système pré-étatique à l'époque. L'Europe centrale est dominée par la tribu des Avars, installée sur le Danube, et qui a pris le contrôle des tribus slaves qui sont présentes. Alors effectivement, il y a cette légende du marchand franc qui s'appelait Samo, qui a créé une première entité.
C'est une légende.
On est là plutôt dans le mythe, je dirais, et des connaissances extrêmement fragmentaires. Pour parler de construction de l'État, il faut aller quand même au 9e siècle pour voir les premiers linéaments de construction étatique au Xe siècle, au moment où s'affirme dans l'espace tchèque la dynastie des Přemyslides.
Přemysl Otokar, il s'appelait. Vois que Hergé a repris le nom pour sa Sildavie, dans le roi Otokar.
Oui, qui est un mélange dont se réclament de nombreux peuples de la région. Le sceptre d'Otokar. Přemysl Otokar II, en l'occurrence, c'est le grand roi de la dynastie Přemyslide. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on l'appelait le roi d'or. Et d'ailleurs, le fondateur de Königsberg, qui s'appelle aujourd'hui Kaliningrad, dont l'extension du territoire du royaume de Bohême était assez grande, et c'était un roi guerrier et prestigieux, avant que la dynastie des Přemyslides, d'ailleurs, ne s'éteigne au début du XIVe siècle et soit remplacée par les Luxembourg.
Mais il faut que nous avancions, Antoine Marès, et que nous arrivions au grand événement qu'est le mouvement hussite, Jean Hus.
Le mouvement hussite est lié, bien sûr, à la personnalité de Jean Hus. C'est un prédicateur qui est né à la fin du XIVe siècle et qui commence à être très actif au début du XVe siècle. Et qui conteste l'Église catholique, une Église divisée par le schisme depuis les années 1370, une Église corrompue, riche, en Bohême, et la voix de Hus s'élève comme la voix de quelqu'un qui veut revenir à l'Église des origines, à la pureté des origines chrétiennes.
Un peu comme Luther un peu plus tard, ou Calvin.
Comme Luther ou Calvin, effectivement, et certains, Luther lui-même a considéré que Hus était un précurseur. Alors, on peut parler d'anomalie historique à propos de ce mouvement hussite, parce que ce mouvement, alors que l'imprimerie n'existe pas et ne permet pas de diffuser des idées nouvelles...
Alors qu'elle a tellement porté la réforme.
Absolument. Les idées de Hus vont gagner l'ensemble du pays, et le royaume de Bohême va sortir, en quelque sorte, de la chrétienté catholique.
Les choses se terminent mal pour Hus, puisqu'il est brûlé pour hérésie en 1415, au moment du concile de Constance.
Il est brûlé au concile de Constance, le 6 juillet 1415, et cette date d'ailleurs est une fête nationale tchèque, et Hus est un personnage autour duquel l'autosituation historique des Tchèques se fait.
Aujourd'hui encore ?
Encore aujourd'hui, on est pour ou on est contre Hus, selon qu'on est plus attaché au catholicisme ou qu'on ne l'est pas, le fait que sa mort soit toujours célébrée, quand même une mort qui remonte au début du XVe siècle, est assez significative de son importance dans le paysage. Et le mot d'ordre que Hus a prononcé quand il était sur le bûcher, « La vérité vaincra », s'est transformé comme le slogan, en quelque sorte, des présidents de la République tchèque. Hein. « La vérité l'emporte ».
Cette histoire du mouvement hussite nous rappelle l'importance des oppositions religieuses de cette époque-là jusqu'aujourd'hui pour comprendre la réalité de la République tchèque et de la Slovaquie. Aujourd'hui encore, cela pèse ?
Je dirais que ça pèse peut-être dans les différends qui sont apparus entre les Tchèques et les Slovaques, puisque les Tchèques sont très déchristianisés. La part de la population qui se réclame du catholicisme est extrêmement basse, hein, 10%. Paradoxalement, les protestants tchèques sont beaucoup moins nombreux que les protestants slovaques. Paradoxalement, parce que la vision que les Tchèques ont de leur passé est une vision qui est très largement empreinte de la vision protestante. Par l'intermédiaire de Masaryk, dont on reparlera, et par l'intermédiaire d'autres grandes figures intellectuelles. Alors que chez les Slovaques, dans l'entre-deux-guerres, au XXe siècle, on avait 17% de protestants. Alors, ça a aussi un effet qui va dans un autre sens, dans la mesure où ce sont les protestants slovaques qui vont être les principaux agents du lien avec les Tchèques. Et ils sont partisans du tchécoslovaquisme. Ils vont être les moteurs de cette relation privilégiée entre Tchèques et Slovaques dès la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres.
Alors après cette période relativement lumineuse, au royaume de Bohême, qui reste un peu mythique dans la mémoire collective, on en arrive au drame du XVIIe siècle, et en particulier la défaite de la Montagne Blanche, qui est un traumatisme fondamental, qui a marqué cette histoire, au moins autant que la Révolution française pour nous.
Il faut revenir en arrière pour comprendre ce qui se passe à la Montagne Blanche. L'héritage du mouvement hussite, il est double. Ça a été un héritage de destruction du patrimoine chrétien, un côté, parce que le mouvement hussite était un mouvement iconoclaste, mais en même temps est issu de cet épisode une longue période de cohabitation des chrétiens et des hussites et de leurs descendants religieux, jusqu'au début du XVIIe siècle. Donc l'espace tchèque a été un espace de tolérance, en particulier au XVIe siècle.
On le sent encore aujourd'hui, au fond. C'est un pays relativement tolérant à l'intérieur de lui-même. Ce n'est pas un pays de violence
absolument
spontanée.
Mais ça, c'est lié à un autre élément, peut-être. C'est que, et c'est une conséquence de la Montagne Blanche, c'est que les élites aristocratiques et nobles ayant disparu, ce sont des valeurs rurales, paysannes et bourgeoises qui les ont remplacées. Et ces valeurs excluent la violence ou la guerre comme processus légitime dans le domaine politique.
Mais je vous fais courir trop vite, la Montagne Blanche d'abord.
La Montagne Blanche est le résultat d'un changement d'atmosphère qui se passe à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, avec un durcissement des positions entre catholiques et protestants, de Bohême, mais de manière générale, puisque les nouveaux souverains, ceux qui sont arrivés, la dynastie qui est arrivée à la tête du royaume de Bohême en 1526, ce sont les Habsbourg. Les Habsbourg sont très influencés, bien évidemment, par les jésuites, par ce que les protestants appellent la contre-réforme, ce que les catholiques appellent la reconquête catholique, et l'affrontement monte progressivement au début du XVIIe siècle pour déboucher sur une véritable crise à partir du moment où les représentants du souverain habsbourgeois décident de rompre le délicat équilibre entre les protestants et les catholiques, ce qui provoque la défenestration des représentants du roi du château de Prague, et c'est en 1618 le début de la guerre de 30 ans, puisque la première phase de la guerre de 30 ans durera de 1618 à 1620 et se terminera, comme vous le disiez, par la défaite de la Montagne Blanche le 8 novembre 1620. Ce qu'il faut mentionner, pour ne pas commettre d'anachronisme, le péché majeur pour l'historien, c'est que les armées des États de Bohême protestants et les armées habsbourgeoises sont des armées multinationales. Ce sont des protestants qui se battent contre des catholiques, ce ne sont pas des tchèques qui se battent contre des allemands, contrairement à ce qu'une historiographie nationaliste a voulu faire croire par la suite. Et ce sont les catholiques qui gagnent. Et le fait que ce soit les catholiques qui gagnent a des conséquences désastreuses pour les tchèques, effectivement, parce que les élites protestantes sont obligées de quitter le pays.
Et c'est alors que l'historiographie tchèque nous dit qu'on est entré dans une période de ténèbres.
Absolument. Alors, la période des ténèbres, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le tchèque n'est plus langue d'État. Ça veut dire que les élites ne sont plus tchécophones, les élites nobilières et bourgeoises, et que le royaume de Bohême a perdu son indépendance dans la mesure où le souverain est devenu héréditaire et que la noblesse ou que les élites n'ont plus le droit de voter pour un souverain, d'élire un souverain. L'hérédité fait perdre aux Tchèques leur autonomie.
C'est cette période-là, le début de cette période sombre, qu'évoque un jésuite de, probablement de l'autre bord, Bohuslav Balbin, dans ce propos qui remonte à 1670 et qui est lu sur France Culture le 20 mai 1981.
Depuis 1624, nous avons perdu jusqu'à 30 000 familles ou chefs de famille venant de la noblesse et des villes, et autant dans le reste de la population. Outre cela, les horreurs de la guerre et les cruautés de la soldatesque qui n'eurent de cesse de 1618 à 1648, jointes à la méchanceté de nos ennemis, causèrent la perte par le feu de 1000 villages. Beaucoup de paysans et d'habitants des villes s'armèrent alors et entrèrent en rébellion, mais la faim est par deux fois la plus terrible peste qui ravagea tout le pays, enfin les tourments innombrables de notre pauvre patrie, la dévastèrent si bien que villages, bourgs et villes gisent maintenant exsangues et presque dépeuplés. Saint Venceslas, héritier de la terre tchèque, ne nous laisse pas périr, nous et nos descendants.
Qui était Saint Venceslas, Antoine Marès?
Alors, Saint Venceslas, c'est un des premiers souverains pchémislides, c'est le saint patron de la Bohême qui a été tué par son frère parce que il s'était converti
Rémus et Romulus
au christianisme, si l'on veut. Bon, un scénario très classique du début de la christianisation du pays où ceux qui sont encore païens considèrent que la conversion au christianisme est parfois aussi une entrée des voisins occidentaux francs dans les affaires tchèques.
Il y a une très grande statue de Saint Venceslas à Prague qui est très honorée.
Saint Venceslas est un personnage qui effectivement est très très présent et le 28 septembre qui est la date de sa fête est une fête nationale.
Alors nous savons que cette période de la guerre de 30 ans a été épouvantable dans toute l'Europe centrale, en la France actuelle aussi, en Franche-Comté et ailleurs. Mais est-ce que ce regard de ce jésuite est légitime? Est-ce que les choses sont vraiment aussi sombres? Parce que c'est aussi une période qui connaît un certain brio artistique. C'est l'époque de l'arrivée du baroque à Prague en particulier.
Alors, c'est une vision qui est très largement fondée d'un point de vue de la culture nationale, c'est évident, mais vous avez raison. Le baroque, c'est aussi une extraordinaire éclosion, parce que les jésuites, qui sont les porteurs du baroque et qui sont les porteurs de la recatholicisation, agissent à la fois par la force, hein, on poursuit les hérétiques, on chasse tous les possesseurs de Bible, parce que posséder une Bible, ça veut dire qu'on reste attaché encore au protestantisme, mais en même temps, il y a la séduction extraordinaire du baroque, le décor des églises, la musique baroque aussi, sont des éléments de séduction qui permettent de rallier une partie non négligeable de la population. Il y avait au début du XVIIe siècle 80 à 90% de protestants dans le royaume de Bohême, selon les régions. Eh bien, un siècle plus tard, il n'y a plus de protestants, ou seulement des cryptos protestants. C'est-à-dire que cette opération de reconquête a quand même été un succès, même si elle a laissé des traces, et que le catholicisme tchèque sera un catholicisme, je dirais, très très raisonné, un peu qui ressemble un peu à notre gallicanisme. Et un écrivain tchèque catholique du XXe siècle dira: dans tout catholique tchèque sommeille un petit Jean Hus, et je crois qu'il avait raison.
Sur cet aspect un peu paradoxal de la beauté qui aujourd'hui explique le grand succès touristique de Prague, je voudrais vous faire entendre un propos de Milan Kundera. Quand on parle de la République tchèque, de la Tchécoslovaquie, il faut entendre le grand écrivain Milan Kundera qui parle des fleurs du mal là-bas, le mal caché dans la beauté baroque de Prague. C'était sur France Musique le 22 février 1988.
Le mal de Prague, c'est le baroque. Parce que vous savez, toute la beauté de Prague, et surtout dans son baroque, dans ses églises baroques, dans les palais baroques, dans les statues baroques. Mais ce qui est très fascinant, toute cette beauté baroque de Prague est liée à la plus grande tragédie nationale des Tchèques. La nation tchèque était une nation protestante. Et le protestantisme tchèque était battu et liquidé au commencement de la guerre des 30 ans, c'est-à-dire au commencement du XVIIe siècle, et avec lui, avec le protestantisme, toute l'aristocratie tchèque qui était ou bien exécutée ou bien forcée à migrer. Vraiment une liquidation horrible de la nation tchèque, parce que privée de son intelligentsia, la nation tchèque a été désarmée et complètement à la merci d'une récatholisation et d'une germanisation brutale. Et c'est le baroque qui a dominé cette époque. Et pas seulement dominé, le baroque, c'était le moyen idéologique de cette récatholisation et de cette germanisation. C'est-à-dire, tous ces statues baroques, ce sont les fleurs du mal, ce sont les fleurs de l'oppression, ce sont les fleurs de ce lavage des cerveaux, de cette rééducation qui devait faire d'une nation tchèque protestante une nation allemande catholique. Et ces fleurs du mal, ces statues baroques, cette culture baroque, c'est en même temps une très grande beauté. C'est-à-dire tout le paradoxe de la beauté, ce paradoxe diabolique de la beauté y est. Cette connivence de la beauté du mal, qui est une expérience tellement pragoise.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Paradoxe diabolique. Vous ratifiez cette formule, si j'ai bien compris, Antoine Marès.
Je dirais que la vision qu'exprime là Milan Kundera est une vision très classique qu'ont les Tchèques de cette période, que ne partagent pas ceux qui adhèrent, je dirais, au camp catholique parmi les Tchèques, mais c'est une belle définition. Et l'introduction de Baudelaire dans le baroque me paraît tout à fait savoureuse.
Avançons, sortons de ces ténèbres progressivement et avançons jusqu'au XIXe siècle avec les réveils nationaux du côté des Tchèques, du côté des Slovaques, comme ailleurs en Europe, ce qui va culminer dans le Printemps des Peuples, 1848, même si l'héritage de Metternich, on va voir l'autoritarisme et s'en prendre au libéralisme et au mouvement des nationalités. Comment les choses se déroulent-elles donc du côté de Prague et de Bratislava, du côté des Tchèques et du côté des Slovaques?
Alors, Je dirais qu'on est dans un schéma très classique du passage d'une identité religieuse dominante jusqu'au début du XVIIIe siècle, une sorte de sas qui est constitué par l'introduction des Lumières, période au cours de laquelle on assiste à une laïcisation de la société, en particulier sous Marie-Thérèse, mais plus encore sous Joseph II entre 1780 et 1790, pour arriver dans une phase de réveil national.
Donc les antagonismes religieux perdent de leur importance par rapport aux oppositions nationales.
Tout à fait, dans la mesure où les protestants sont réintroduits dans la société et où les discriminations religieuses à l'égard des juifs et les ghettos sont supprimées sous Joseph II.
Des discriminations qui avaient été très brutales jusque-là.
Tout à fait, puisque les Juifs étaient enfermés, comme dans beaucoup de régions européennes, et qu'ils ont subi à de nombreuses reprises, depuis le Moyen-Âge, des pogroms qui ont été suivis d'une réintroduction, puis de nouveaux pogroms, etc. Mais c'est le grand mérite de Joseph II d'avoir supprimé ces discriminations et assuré d'ailleurs une certaine dynamisation de l'économie avec l'introduction des Juifs dans la société.
Joseph II, le souverain bourgeois.
Absolument, à la fois empereur et roi de Bohême. Alors, si je peux poursuivre sur ces différentes phases du réveil national, il y a une première étape qui est inspirée par les Lumières, c'est-à-dire de la construction d'une idéologie du progrès, qui est d'un progrès universel, et qui émane d'ailleurs des souverains et de la noblesse. Donc c'est un phénomène qui se diffuse peu à peu dans la société. Et puis il y a un second temps où la langue devient principale. On a un phénomène d'apologie de la langue. La langue devient en quelque sorte est sacralisée. Alors le paradoxe, c'est que les premières apologies du tchèque sont écrites en latin ou en allemand, avant d'être écrite en tchèque à la fin du XVIIIe siècle.
Pour ne pas parler du slovaque qui est encore bien plus en retard, la littérature slovaque n'émerge que beaucoup plus tard.
Oui et non, parce que la première codification du slovaque date des années 1790. C'est un prêtre slovaque qui s'appelle Antar Bernolák qui choisit un dialecte de l'ouest de la Slovaquie pour le codifier.
Et qui en fait un livre.
Il écrit une grammaire du slovaque, mais cette tentative est un demi-succès. Et c'est ce qui expliquera que, dans les années 1840, un autre personnage important, qui celui-ci est protestant, qui s'appelle Štúr, va créer la langue slovaque, qui est à l'origine de la langue slovaque actuelle. Pour des raisons d'ailleurs très intéressantes de choix de dialecte, le dialecte slovaque de l'Ouest n'était pas compréhensible de l'ensemble des Slovaques, alors que le dialecte central, Slovaquie centrale, était compréhensible des Slovaques de l'Ouest et de l'Est, ce qui n'a pas été sans poser problème, parce que d'une part, il y avait ceux qui étaient habitués déjà aux Slovaques de l'Ouest, qui avaient été codifiés dans les années 1790, et qu'un certain nombre de Slovaques se disaient, si nous créons une langue, nous allons nous séparer des Tchèques, et ce n'est peut-être pas bien pour nous, et il vaudrait mieux que nous continuions à utiliser les Tchèques, en particulier chez les protestants, parce que les protestants ont pour langue slovaque, ont pour langue culturelle le tchèque. Parce que les Tchèques ont traduit la Bible au XVIe siècle, et que cette Bible sert d'outil pour les protestants slovaques.
De quoi est constitué ce sentiment national qui se définit au cours du XIXe siècle, Antoine Marès, comme d'ailleurs parallèlement dans d'autres pays d'Europe ?
C'est essentiellement, je dirais, un nationalisme d'affirmation et un nationalisme d'existence qui consiste à dire « j'ai le droit d'étudier dans ma langue, j'ai le droit de communiquer avec les autorités dans ma langue, j'ai le droit d'étudier jusqu'à l'enseignement supérieur ». Donc je distinguerai bien évidemment dans ce nationalisme d'affirmation ce qu'il y a d'identitaire et ce sentiment identitaire, il se développe du côté des Tchèques contre les Allemands et du côté des Slovaques contre les Hongrois. C'est un nationalisme donc défensif qu'il ne faut pas confondre, bien évidemment, avec un nationalisme agressif, sachant que, bien évidemment, la frontière entre les deux peut être rapidement franchie et que ce nationalisme défensif, lorsque l'État sera créé, pourra s'exercer à l'encontre des voisins, par exemple à l'encontre des minorités polonaises ou hongroises dans le cadre de la Première République tchécoslovaque.
Et parfois contre les Roms aussi. On peut rappeler qu'on les a appelés bohémiens parce que c'est un roi de Bohême qui les avait envoyés certains vers la France avec des lettres pour les accompagner, mais le mot de tzigane est mieux approprié.
Le mot de tzigane en français est un mot qui est relativement neutre, mais en Europe centrale, le mot de tzigane est un mot très péjoratif.
Le bohémien, alors bohémien, c'est...
En Europe centrale, on utilise le terme de Rome pour désigner ces populations de façon neutre. Et vous avez raison, le nationalisme s'est exercé en particulier après 1990 à l'encontre des Roms, que ce soit dans l'espace tchèque ou l'espace slovaque, de manière parfois très agressive. Ce sentiment agressif à l'égard des Roms a bien sûr des racines sociologiques,
de longue
mais
durée.
Aussi participe aussi de la xénophobie montante en République tchèque et en Slovaquie.
Lorsque survient la Première Guerre mondiale, qui va évidemment modifier complètement la donne en signant la fin de l'Empire austro-hongrois, et donc en 1919, selon le principe des nationalités, cher à Wilson et aussi à la France, on va voir surgir sur les décombres de l'Empire fondé lui-même sur une union entre la Hongrie et l'Autriche, on va voir surgir de nouveaux pays et on va voir surgir la Tchécoslovaquie, moment essentiel et aujourd'hui encore présent, bien sûr, dans la mémoire de ces peuples. Je voudrais que vous nous expliquiez où on en est à ce moment-là, Antoine Marès. Non sans vous avoir fait entendre un propos de Thomas Masaryk, le philosophe qui a été le premier très prestigieux président de la République tchécoslovaque et donc constitué par les traités qui suivent la Première Guerre mondiale. Thomas Masaryk, 1928.
La raison d'État est symbolisée par l'esprit, par les valeurs morales. Les théoriciens de l'Ancien Régime l'exprimaient par la formule « monarque par la volonté de Dieu ». Notre État a pu être constitué grâce à la reconnaissance par les alliés de notre droit étatique et à la lutte menée par ces citoyens, vivant ici ou à l'étranger, contre nos adversaires, contre les défenseurs de l'Ancien Régime et de la vieille Europe.
Dès décembre 1918, Thomas Masaryk s'adressait à l'Assemblée nationale. Nous ne vivons pas un conte de fées. Le monde s'est divisé en deux camps et dans ce terrible combat, ceux qui défendaient les idéaux de justice, entendez l'entente contre les empires centraux, ceux qui défendaient les idéaux de justice l'ont emporté, les idéalistes ont gagné, l'esprit a vaincu la matière, le droit, la force, la férocité et la ruse. C'est ce dont avaient rêvé les révolutionnaires de 1848 déjà.
D'une certaine façon, parce que 1848 est le moment précis où les formulations politiques, on passe de la construction d'une identité nationale par la langue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par la littérature, par l'histoire, aussi fondamentalement par l'histoire, on passe à un propos politique. Et c'est à ce moment-là que les Tchèques et d'ailleurs les Slovaques revendiquent de constituer au moins une entité administrative indépendante. Et je dirais que 1918, c'est le résultat de la non-acceptation de cette identité administrative autonome au sein de l'Empire austro-hongrois. Au fond, on pourrait dire que si les responsables de l'Autriche-Hongrie avaient fédéralisé leur pays et ne s'étaient pas contentés d'une fédéralisation austro-hongroise, eh bien, il n'y aurait certainement pas eu cet éclatement auquel on a assisté en octobre 1918 et cette naissance des États nationaux.
Il y a beaucoup de Hongrois, d'ailleurs, en Slovaquie, et aujourd'hui encore, ça pèse sur le destin de la Slovaquie. On observe à propos de ce que vous dites que Beneš, qui était un très grand homme de toute cette période, second président de la République de Tchécoslovaquie, avant 1918 était plutôt favorable effectivement à une décentralisation poussée au profit d'une autonomie de son pays plutôt qu'à l'indépendance. Il ne s'y est rallié que progressivement. Est-ce que je me trompe ?
C'est la guerre. C'est la guerre qui est le catalyseur de la naissance des États nationaux. En 1914, aucune force politique tchèque conséquente ne réclame la création d'un État tchécoslovaque.
L'indépendance complète, disait Benesch à l'époque, ne serait pour nous, tchèques, à l'époque actuelle où se forment en Europe exclusivement des empires immenses, qu'un grand malheur. Il va changer.
Oui, c'est la position de la social-démocratie. Benesch est un social-démocrate avant 1914 et la destruction de l'Empire austro-hongrois n'est pas dans le scénario prévu par les sociaux-démocrates.
Donc, naissance de la première république tchécoslovaque en 1918, naissance de cette idéologie que vous évoquez, le tchécoslovaquisme, la légitimité de cette rencontre entre les deux nations. Combien sont-ils en termes démographiques en 1918, les Slovaques et les Tchèques ?
Les Tchèques doivent être autour de 7 millions, les Slovaques d'1 600 000.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les Tchèques sont à peu près 10 millions, plus de 10 400 000 et les Slovaques plus de 5 400 000.
Quelles sont les conceptions de Masaryk, le premier président, de Benesch, le second, pendant cet entre-deux-guerres, où dans cette région du monde, la Tchécoslovaquie est une vraie et rare démocratie, contrairement à ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne?
La Tchécoslovaquie va rester jusqu'en 1938 un îlot démocratique. Alors, cet îlot démocratique et cette démocratie, elle est peut-être à nuancer par le rôle des partis, le poids des partis. On a parlé de partitocratie parfois à propos de la Tchécoslovaquie, mais c'est un pays qui respecte notamment le droit des nationalités, qui est certainement le pays qui est le plus disposé à prendre en compte les engagements qui ont été pris lors des traités de paix, ce qui va expliquer d'ailleurs qu'une partie des minorités se rallie. C'est très intéressant de voir que les Allemands, par exemple, qui constituent à peu près 24% d'à peu population.
Les Allemands des Sudètes.
Les Allemands des Sudètes. Dans un premier temps, ils refusent l'État tchécoslovaque. À partir de 1922, ils se rallient à l'État tchécoslovaque. Et il va y avoir, non seulement ils sont représentés en fonction de leur poids démographique, mais ils participent même au gouvernement jusqu'en 1938. Il y a des Allemands au sein du gouvernement tchécoslovaque jusqu'en 1938. Et c'est avec la crise que cette population allemande va peu à peu se détourner, parce qu'il se trouve que les Allemands qui habitent dans la périphérie des pays tchèques sont employés dans des industries de consommation qui sont beaucoup plus touchées par la crise mondiale que les Tchèques et qui par conséquent ont le sentiment d'une injustice, alors que parallèlement ils voient de l'autre côté des frontières, à partir de 1933, une Allemagne où le chômage disparaît pour des raisons que nous connaissons, qui sont la préparation de la guerre et d'une industrie de guerre. Donc ils vont être de plus en plus séduits par le modèle national-socialiste et se rallier aux deux tiers, aux élections législatives de 1935, au parti qui incarne ce courant, qui est le parti allemand des Sudètes.
Et c'est naturellement le levier que va utiliser Hitler pour s'emparer de plus d'un tiers du territoire tchèque à Munich avant d'avaler entièrement le pays en mars 1939, avec la complaisance, ou en tout cas avec la molle acceptation de l'Angleterre et de la France. Pour restituer la tonalité du moment, écoutez cette revue de presse sur Radio PTT le 15 mars 1939. Donc on est au moment de la seconde crise tchèque. Tchécoslovaque, le pays va disparaître, avalé par les nazis.
Dans la presse étrangère, ce matin, la seule ombre au tableau nous vient d'Allemagne, où toute la presse du matin déclare, sous d'énormes manchettes de première page, la situation de la minorité allemande en Tchécoslovaquie devient d'heure en heure plus grave, et que les Tchèques font régner une terreur monstrueuse et attaquent brutalement les Allemands. Völkischer Beobachter écrit en caractère gras, souligné d'un épais trait rouge, « Le sang allemand coule à Brünn ». Il est caractéristique, écrit l'organe officiel du parti nazi, que la police tchèque à Brünn non seulement n'a pas protégé les Allemands contre les attaques de la foule, mais qu'elle a arrêté des Allemands qui avaient été maltraités par les Tchèques sous le titre « Méthode de Benesch ». Le Zwölfuhrblatt publie une liste des mauvais traitements qui auraient été infligés hier à des Allemands à Brünn, et à Presbourg. Les journaux déclarent également que les Allemands de Tchécoslovaquie, qui hier fêtaient le jour des héros, ont été attaqués, que des cris hostiles ont été poussés contre le Führer et contre l'Allemagne, et que des coups de feu ont été tirés contre le drapeau à croix gammée.
Les événements d'Europe centrale ne causent aucun étonnement aux journaux new-yorkais qui les considèrent comme la suite normale des accords de Munich. Le New York Times écrit notamment « L'accord qui, à Munich, a donné aux tendances séparatistes un énorme stimulant, a laissé la nation qui fut la plus forte de cette région, sans défense contre toute attaque. Il semble maintenant que la situation servira à Hitler de prétexte pour une nouvelle poussée. Après avoir détruit les frontières tchécoslovaques en septembre dernier, il détruirait maintenant l'indépendance de cet État et le mettrait entièrement sous la tutelle du Reich. »
Ces propos sont totalement hallucinants parce qu'ils sont complètement étrangers à la réalité. Il s'agit simplement d'un alibi pour envahir le pays. Alors, les accords de Munich sont quelque chose de fondamental dans cette histoire parce que c'est une rupture, c'est la grande rupture traumatisante. Le point de rupture au XXe siècle pour les Tchèques, c'est le 29-30 septembre 1938.
Très présent dans la mémoire d'aujourd'hui encore, cela pèse beaucoup.
Extrêmement présent dans la mémoire d'aujourd'hui, même si on commence par prendre des distances. Mais c'est à la fois la trahison de la France, la trahison de l'Occident, de façon plus large, c'est la fin provisoire de l'État, et c'est surtout l'échec de la démocratie parlementaire. Au fond, la démocratie parlementaire a été incapable d'assurer la permanence de l'État, et c'est là-dessus, bien sûr, que les communistes vont appuyer là où ça fait mal, en disant on ne peut plus compter sur l'Occident et par conséquent il faut se tourner vers l'Union soviétique pour garantir l'État. Même si la position de Benesch, qui est le principal acteur, est beaucoup plus modérée et que lui va essayer de jouer sur les deux tableaux et essayer de faire que la Tchécoslovaquie, au lendemain de la guerre, demeure une sorte de pont. L'idée de pont entre l'Est et l'Ouest est quelque chose qui est très fort chez lui, mais qui devient utopique bien sûr à partir du moment où la guerre froide monte et où la scission de l'Europe se produit.
La mémoire de la période nazie, les années 40 à 45, est assez différente du côté des Tchèques et du côté des Slovaques, par la nature même de l'évolution des choses et par l'existence d'un État satellite du côté de la Slovaquie.
Vous avez entièrement raison. La mémoire de la guerre chez les Tchèques est une mémoire totalement noire. C'est une nouvelle période de ténèbres pour les Tchèques, 6 années d'occupation, d'exploitation, même si cette occupation et cette exploitation ont été peut-être moins dures que dans d'autres pays voisins, en particulier la Pologne. Mais ça a profondément marqué les Tchèques. Chez les Slovaques, c'est beaucoup plus ambigu parce que leur situation matérielle s'est paradoxalement améliorée pendant la guerre. Le chômage qui existait a été en quelque sorte très réduit par les commandes de l'économie de guerre allemande. Les Slovaques ont bénéficié aussi, se sont accaparés les biens des Juifs directement.
Exterminés pour la plupart.
Exterminés en collaboration avec le pouvoir slovaque. C'est aussi la grande différence entre les Tchèques et les Slovaques. Dans le protectorat de Bohême-Moravie, Juifs et Tziganes sont exterminés par les Allemands, alors qu'en Slovaquie, l'extermination des Juifs se fait en collaboration avec le pouvoir de l'État cléricalo-fascisant dirigé par Tiso. Donc c'est vrai qu'il y a une différence sensible entre les deux. Et cette mémoire différenciée des Tchèques et des Slovaques va peser sur le long terme. Ils n'ont pas une vision commune de leur histoire.
Vous pensez que la coupure de 1992 est aussi le fruit de cette différence ?
Absolument. Ce poids de l'histoire a joué incontestablement, d'autant qu'au lendemain de la guerre et pendant la période communiste, jusqu'en 1968, les Tchèques ont imposé très largement aux Slovaques une recentralisation qui revenait sur cette expérience qui avait débuté à la fin de l'année 1938 de fédéralisation.
Entre 45 et 48, on peut songer à, effectivement à un effort de fédéralisation. On peut songer aussi à la restauration d'une démocratie. C'est le rêve de Benesch, mais il va être fracassé, comme l'est le ministre des Affaires étrangères Masaryk, qui est le fils du fondateur. Écoutez ce que dit Benesch, il est encore au temps des illusions, le 1er septembre 1945.
Puisque vous m'avez fait le grand honneur, Monsieur le Président, de m'accorder cette entrevue, j'aimerais pour mes compatriotes que vous puissiez répondre à certaines questions qu'ils se posent concernant votre pays. Et d'abord à celle-ci. comment entendez-vous régler le problème des minorités allemandes, prétexte ou foyer de troubles, comme ne l'ont que trop prouvé ces dernières années?
La décision sur le sort des Allemands en Bohême nous est dictée par les considérations d'ordre moral. En 1918, nous avons essayé de fonder un État qui donnerait aux Allemands tous les droits des citoyens égaux et démocratiques avec une protection spéciale des minorités. Nulle part en Europe, sauf en Suisse, la position de cette minorité n'était telle que celle des Allemands en Tchécoslovaquie. En 1938, au moment du danger mortel pour nous, quand Hitler a fait l'attaque contre nous pour détruire notre patrie, ils se sont joints à lui pour nous abattre. Après la guerre perdue, ils doivent partir en Allemagne. Nous ne pouvons pas vivre en commun avec eux. La conférence de Potsdam a accepté cette décision. Le transfert doit se faire d'une manière organisée et humaine et d'accord avec les grands alliés.
Et maintenant, Monsieur le Président, dans Tchécoslovaquie, il y a Slovaquie. Alors je voudrais savoir comment et dans quelle mesure, sociale, administrative et politique, la République tchécoslovaque entend faire sa place à la Slovaquie dans la communauté.
Les problèmes slovaques est pratiquement réglé. L'administration de la Tchécoslovaquie sera basée sur le principe d'une large décentralisation. La Slovaquie aura sa diète et son pouvoir exécutif. Les Slovaques seront entièrement égaux aux Tchèques. La nouvelle constitution sera l'expression de ce nouvel état des choses et les discussions à ce sujet sont en cours et se passent dans un esprit entièrement démocratique et totalement libre et amical.
Esprit démocratique, libre et amical, le réveil sera dur. Vous avez publié récemment, Antoine Marès, une belle biographie d'Edouard Benesch. Vous le reconnaissez là ?
Avec cette volonté de trouver un point d'équilibre introuvable dans les conditions de l'époque, puisqu'il s'est lié les mains du côté soviétique pendant la guerre déjà.
En 1948, la chape de plomb soviétique tombe sur la Tchécoslovaquie et cela va durer jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du mur. Dernière période qui pèse aujourd'hui d'un poids très lourd sur les psychologies, les comportements et peut-être aussi sur ce qui a compté dans la division entre Slovaques et Tchèques en 92, non ?
Tout à fait. Je mentionnerai au moins quatre points essentiels pour comprendre cette situation. Le premier, c'est que on a vu à travers tout ce qu'on a dit que le sentiment de menace est quelque chose d'extrêmement présent chez les Tchèques. C'est vrai de l'ensemble de l'Europe centrale d'ailleurs, et cela alimente le populisme parce que les populations ont un sentiment de fragilité historique extrême et la peur est un sentiment irraisonné qu'il est facile d'instrumentaliser.
Avec les migrants de surcroît qui viennent titiller cette inquiétude.
On peut dire en plaisantant à peine que 12 Syriens ont produit 22 députés d'extrême droite lors des dernières élections législatives en République tchèque. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est que on est passé d'un système fermé à un système ouvert. Le système communiste en Tchécoslovaquie s'est caractérisé par une fermeture extrême et la diversité évidemment peut se transformer en sentiment là encore de menace, surtout si elle est surexploitée par les détenteurs du discours public. La troisième raison, me semble-t-il, c'est l'impact de l'expérience de l'ouverture sur le plan social. Il faut bien voir que ce qui est vrai pour l'espace tchécoslovaque est vrai aussi pour l'ensemble de la région. Si l'on regarde la province, si l'on regarde les campagnes, les petites villes, les retraités, les tziganes, les travailleurs non qualifiés, on constate que les perdants de l'ouverture sont assez nombreux. L'adhésion aux forces populistes à laquelle on assiste, tant en République tchèque qu'en Slovaquie, c'est aussi leur revanche. Et la quatrième raison, qui est générale en Europe, c'est que les électeurs sont saturés par les émotions. Et ça, c'est un phénomène de décervelage auquel on assiste, alors que l'habitus démocratique a été perdu, ou n'a jamais existé d'ailleurs, et c'est l'effet de la pratique démocratique telle qu'elle s'est développée depuis 1990, avec malgré tout la corruption, les scandales, qui disqualifient en quelque sorte le modèle de démocratie parlementaire et par conséquent les partis traditionnels. L'effondrement du Parti socialiste en République tchèque, aux dernières élections, il y a eu 7%, est très largement lié à ce phénomène. Et la montée sur la scène de forces dont on ne sait pas d'où elles viennent. Vous aviez fait allusion tout à l'heure au parti Ano de Babiš, et qui s'impose, je dirais, par défaut.
Le milliardaire populiste.
Milliardaire populiste. Et on assiste exactement au même phénomène en Slovaquie.
Et vous diriez que l'histoire pèse moins que naguère dans ces phénomènes, l'histoire longue, ou qu'au contraire on en retrouve les résurgences?
Je pense que l'histoire pèse d'une certaine façon. L'histoire de la période communiste, qui a été beaucoup plus nationaliste qu'on ne l'a dit, il reste à étudier. Cette période communiste sous cet angle, ça a été fait pour la Roumanie, par exemple, avec les travaux de Catherine Verdery sur le national-communisme. Mais le nationalisme, pendant la période communiste, a laissé un héritage qui a ressurgi après la période communiste. De ce point de vue-là, l'histoire pèse directement. Et je dirais que ce qui pèse plus encore que l'histoire en elle-même, c'est l'instrumentalisation de cette histoire par les hommes politiques, par les médias, de façon permanente.
L'histoire alimente l'histoire, nous le savons bien, ici, dans cette émission. Merci beaucoup, Antoine Marès. Vous avez mis à notre disposition une précieuse histoire des Tchèques et des Slovaques. La réédition est parue dans la collection Tempus, en 2005, chez Perrin. Je citais cette belle biographie de Benesch, un drame entre Hitler et Staline, Perrin également, vous êtes fidèle à cet éditeur. Et puis enfin, vous venez de publier chez Ellipse un ouvrage co-signé avec Alain Soubigou, L'Europe centrale et médiane dans l'Europe du XXe siècle. Mes chers auditeurs, vous pourrez trouver une bibliographie plus complète avec notamment les autres ouvrages, ils sont nombreux, d'Antoine Marès, mon invité ce matin, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. La semaine prochaine, nous partirons plus loin, vers l'Orient, puisque nous nous rendrons en Birmanie et nous nous y mettrons en quête des racines d'une violence, celle que nous constatons, hélas, par les temps qui courent. Mon invité sera François Robin. Bien sur le fond d'une musique due à Smetana, le grand fondateur de la musique nationale tchèque, Ma Vlast, ma patrie, il évoque un fleuve, Vltava. Sur ce fond, j'ai le plaisir de vous dire que vous venez d'entendre l'émission Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guérou, réalisée par Anne Kobilac, qui est allée enfant dans la patrie de ses ancêtres en 1968. Et qui en est revenue, hélas, très promptement, hélas pour elle, heureusement pour nous. Nous avons fait fond sur la qualité professionnelle de U2 Diego Hack Lopez à la prise de son, de Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sandra Escamez. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.